Vous écoutez France Culture.
Bonjour. Aujourd'hui, une émission intitulée « Les féministes en Inde, deux siècles de leur combat ». Une émission diffusée une première fois le 18 janvier 2014.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Je vis en bas, dans ce réservoir qui était presque à sec, une grande fosse pleine de bois, un corps mort étendu dessus, une femme qui de loin me parut assez bien faite, assise sur ce même bûcher, quatre ou cinq brahmanes qui mettaient le feu de tous côtés, cinq fois.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Les Français qui s'intéressent de près à l'évolution de l'Inde sont moins nombreux que les Britanniques, en conséquence très directe de la colonisation. Il n'empêche que l'essor économique et scientifique de ce pays a tourné vers lui les regards chez nous bien davantage depuis quelque temps. Et qu'en conséquence, directe, a grandi l'intérêt pour les équilibres et les déséquilibres de cette société qui nous paraît à tant d'égards si lointaine en dépit de la mondialisation. La situation qui y est faite aux femmes suscite en particulier, sous l'effet de cette curiosité renouvelée, une attention qui est ranimée de loin en loin par des nouvelles impressionnantes, pour ne pas dire terrifiantes. Voici un peu plus d'un an le viol collectif et les tortures qui ont causé la mort d'une jeune femme dans un autobus de New Delhi ont frappé d'autant plus les esprits qu'il a provoqué une formidable vague de protestations et de solidarité parmi la classe moyenne urbaine. Le procès des criminels a été retentissant. La chaîne de télévision NDTV a affiché en boucle sur son écran « En Inde, une femme est violée toutes les 22 minutes ». Si bien que l'on a vu surgir, ici en France, un intérêt inédit non seulement pour l'histoire dans ce pays d'une subordination atavique d'un siècle à l'autre, mais pour la vaillance, l'énergie, les stratégies de celles qui, depuis deux siècles, ont conduit à tout risque un combat contre l'oppression. Le passé du féminisme en Inde, fort méconnu en France, est propre à éclairer ses avancées et ses faiblesses contemporaines. Martine van Verkens, de l'École pratique des hautes études, s'est penchée sur ce sujet avec une compétence reconnue. Et je l'ai priée de venir en traiter pour nous aider à restituer la profondeur temporelle sans laquelle la tragédie dont il s'agit risquerait de nous apparaître comme un fait divers difficile à déchiffrer.
Ma vie, un homme hideux s'en est emparé. Commençons par du Nil dans l'estuaire. Mon corps, il l'a voulu tout à lui. Si l'envie le prend, il peut me pincer les fesses, me cracher au visage, me mettre une gifle. Si l'envie le prend, il peut me déchirer mes vêtements, pétrir ma beauté nue. Si l'envie le prend, il peut m'arracher les yeux. Si l'envie le prend, il peut m'enchaîner. Si l'envie le prend, il peut user du fouet. Si l'envie le prend, il peut me couper les doigts, les mains. Si l'envie le prend, il peut jeter du sel sur mes plaies et de la poudre de piment rouge sous mes paupières. Si l'envie le prend, il peut me fendre les cuisses à la machette. Et si l'envie le prend, pourquoi ne me pendrait-il pas à la plus haute poutre? Il voulait que mon cœur lui soit absolument soumis, que je l'aime, et que la nuit dans la chambre désertée, seule, inquiète, sans sommeil, je pleure contre la poignée de la fenêtre, que je cuise le pain avec mes larmes, que j'avale comme nectar tous les jus de son corps, que le désir me fasse fondre comme bougie, que je ne lève jamais les yeux sur un autre homme, que toute ma vie, je lui donne des gages de fidélité, et que, pleine d'amour pour lui, par une nuit de clair de lune, une folle passion me pousse au suicide.
Martine Van Verkens, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé, pour ouvrir notre conversation, un texte de Dina Mehta, qui est une écrivaine, une féministe indienne, auteure de pièces de théâtre. Et c'est un extrait de l'émission de Marie-Christine Navarro sur France Culture, en décembre 1996, l'émission Grand Angle. Il m'a semblé que nous avions là ramassé peut-être l'exposé de toutes les souffrances que beaucoup de femmes ont pendant longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, subies de la part du sexe dit fort en Inde.
Il est vrai, c'est un texte parfait qui décrit parfaitement toutes les souffrances qu'elles ont subies et qu'elles subissent encore aujourd'hui. Mon livre, en tous les cas, puisque nous allons parler de mon livre, je pense.
Votre livre s'appelle « Nous ne sommes pas les fers », c'est une citation. « Deux siècles de combats féministes en Inde ».
Mon livre s'inscrit un peu en résistance par rapport à cela, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des femmes indiennes victimes et moi j'ai beaucoup voulu parler des femmes indiennes qui se battaient, qui résistaient contre tous les malheurs qui les accablent.
Une de vos héroïnes, nous allons en considérer plusieurs, Bama écrivait « Les femmes audacieuses sont aussi rares que les fleurs du figuier ». Et vous avez ce commentaire à la fin du livre que vous venez d'évoquer. Il est vrai que l'on ne voit jamais les fleurs du figuier parce qu'elles sont enfermées dans le fruit. Mais si l'on s'interroge, si l'on cherche à comprendre, on découvre qu'elles existent et on les admire. Vous les admirez beaucoup, cela se lit dans votre ouvrage.
Oui, je les admire profondément, effectivement, parce que le carcan des traditions est particulièrement lourd en Inde. Il l'a été au 19e siècle, nous sommes très renseignés sur le 19e siècle, il l'est encore au 20e et au 21e siècle. Et c'est un carcan qui est très intéressant pour nous, occidentales, parce qu'il est très proche du nôtre, en fait. C'est une sorte de caricature de ce qu'a été nos propres traditions et le poids des traditions sur les femmes pendant très longtemps en Occident.
Vous voulez dire que les ressorts sont les mêmes, mais que les résultats sont plus marqués ?
Exactement, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde des extrêmes, pourrait-on dire. Par exemple, la fidélité conjugale, qui est une chose qui était exigée des femmes occidentales pendant très longtemps, eh bien, en Inde, prend une forme tout à fait extrême, puisque la femme est censée être tellement fidèle à son mari qu'elle décide de brûler vive sur le bûcher funéraire de son mari.
Tout ça est bien, bien connu, en particulier pour les lecteurs du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Mais nous allons y revenir. Mais auparavant, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi il y a un contraste aussi patent entre la mythologie hindoue, qui fait une place très importante aux femmes et finalement assez peu subordonnée, et la réalité de la société.
Ce qu'il y a de tout à fait passionnant dans ces déesses indiennes, d'une part, c'est qu'elles servent d'inspiration aux femmes mondaines, aux femmes qui vivent sur la Terre. Et que d'autre part, elles représentent finalement trois zones d'activité, si vous voulez, des femmes, peut-on dire. L'une, c'est la fécondité, c'est la richesse. La deuxième, c'est le savoir, les connaissances, la musique, etc. Et la troisième, eh bien, c'est la force guerrière, c'est la capacité de vaincre ses ennemis. Donc nous avons là, si vous voulez, trois aspects des activités féminines, ou en tous les cas des forces que les femmes sont capables de déployer pour accomplir leur destin.
Trois axes d'ailleurs du combat féministe en Inde, c'est presque un résumé de cette émission que vous venez de nous proposer.
Parce que mes premiers personnages, puisque c'est un livre qui est construit autour de récits de femmes, de biographies ou de cahiers ou d'autobiographie. Les premières femmes, effectivement, dont je parle, ce sont des Lakshmi, c'est-à-dire des épouses fidèles et resplendissantes.
Mais cherchant la connaissance, cherchant à se sortir de ce qui a été souvent imposé aux femmes indiennes, si je vous ai bien comprise, c'est-à-dire l'illettrisme. C'est le premier point, le second volet.
Le second volet, si vous voulez, c'est ces Lakshmi qui deviennent tout à coup, qui sont tentées par la déesse de la connaissance. Et cette déesse de la connaissance va s'épanouir finalement pendant les luttes avant l'indépendance et après l'indépendance. Les femmes vont vraiment s'emparer du savoir et du pouvoir. Le troisième combat, eh bien, je dirais qu'il est du côté des basses castes et qu'il est incarné par Fulan Devi,
Un mot néanmoins pour achever cette introduction, si je puis dire. Il faut que vous nous rappeliez quel est le système des castes depuis les brahmanes jusqu'aux intouchables. Alors, on en parle souvent en France et c'est le paysage sur le fond duquel cette lutte des féministes va se déployer.
Ce système donc est très, très ancien, il est sanctifié par les écritures sacrées indiennes les plus anciennes. Et en fait, il est fondé sur un schéma hiérarchique qui comprend au départ, dans les textes très anciens, les Védas, quatre classes. Quatre classes, alors avec au sommet de la pyramide les brahmanes, qui sont les prêtres, ensuite les guerriers, ensuite les artisans, les agriculteurs, etc. Et ces trois premières classes, prêtres, guerriers, artisans, agriculteurs, ont droit à une deuxième naissance rituelle.
Ça, c'est la division ternaire chère à Dumézil,
voilà,
qui aurait fondé finalement tout un ordre occidental.
Tout à fait. Et c'est ce qu'on appelle les deux fois nés. En dessous de ces trois premières classes, il y a ce qu'on appelle les shudras, c'est-à-dire les gens de service, qui, eux, n'ont pas le droit à cette deuxième naissance rituelle. Et à côté, périphérique, si vous voulez, à cet ensemble, il y a les intouchables. Il faut dire que cette classification, cette hiérarchie, elle est fondée sur un principe de pureté rituelle et d'impureté. Et les intouchables qui se trouvent en dehors du système sont dits intouchables parce qu'ils accomplissent des activités polluantes et que par conséquent, ils sont intouchables. On n'a pas le droit de les toucher. Ils n'ont pas le droit de toucher les autres.
Ce n'est même pas une classe, ils sont déclassés.
Ils sont déclassés. Cette description que je viens de faire, bien évidemment, elle est dans la mémoire des gens. Aujourd'hui, on a des castes. J'ai parlé de classes. Là, on a des castes. On a des systèmes de castes qui sont régionaux, qui sont liés à des langues, qui diffèrent d'ailleurs d'une région et d'une langue à l'autre. On a un empilement, je crois, de à peu près 5000 castes. Et ce sont des systèmes qui ne sont pas identiques d'une région à l'autre. Mais on retrouve, si vous voulez, toujours la trace de cette partition, finalement, de l'humanité en classes distinctes.
C'est avec cette partition que les combattantes du féminisme indien vont avoir à se colter.
Bien sûr. C'est-à-dire que dans les premières années du féminisme, la première vague du féminisme va être aux mains des femmes des classes moyennes, disons, et que cette première vague du féminisme ne s'occupera guère des basses castes et des intouchables.
Vous évoquiez il y a un instant la question des veuves à qui on imposait la mort après la disparition de leur époux. Cette pratique a beaucoup frappé les voyageurs français, les observateurs, et pas seulement Phileas Fogg, le Britannique, lorsqu'il passe en Inde et qu'il devient amoureux d'une veuve qu'il va sauver du bûcher. Écoutez cette lecture d'un texte de François Bernier. C'était un voyageur, un philosophe français du XVIIe siècle, qui raconte ce qu'il a vu. C'est une lecture extraite de La matinée des autres de Dominique Rousset sur France Culture, le 17 octobre 1989.
Tant que je passais de la ville d'Ahmedabad à Agra, par-dessus les terres des Rajas qui sont dans ces quartiers-là, on nous donna nouvelle dans une bourgade où se reposait la caravane à l'ombre, en attendant la fraîcheur du soir pour partir, qu'une femme s'en allait alors même se brûler avec le corps de son mari. Je me levai incontinent et m'en allai tout courant sur le bord d'un grand réservoir d'eau où se devait faire l'action. Je vis en bas, dans ce réservoir qui était presque à sec, une grande fosse pleine de bois, un corps mort étendu dessus, une femme qui de loin me parut assez bien faite, assise sur ce même bûcher, quatre ou cinq brahmanes qui mettaient le feu de tous côtés, cinq femmes de médiocre âge et assez bien vêtues, qui se tenaient par la main en chantant et en dansant alentour de la fosse, et une grande foule de monde, d'hommes et de femmes qui regardaient. Le bûcher fut un continent tout en feu, parce qu'on avait jeté dessus quantité d'huile et de beurre. Et je vis dans ce même temps, au travers des flammes, que le feu se prenait aux habits de la femme qui était frottée d'huile de senteur mêlée avec de la poudre de sandhaus et du safran. Je vis tout cela, et ne remarquai point que la femme s'inquiétât et se tourmentât en aucune façon. Ce ne fut pas là la fin de cette infernale tragédie. Je croyais que ce n'était que par cérémonie que ces cinq femmes chantaient et dansaient alentour de la fosse, mais je fus bien étonné lorsque la flamme s'étant prise aux habits d'une d'entre elles, elle se laissa aller, la tête la première dans la fosse, et qu'ensuite une autre accablée de la flamme et de la fumée en fit autant que la première. Mon étonnement redoublant par après quand je vis que les trois qui restaient se reprirent par la main, continuèrent le branle sans s'effrayer, et qu'enfin les unes après les autres, elles se précipitèrent dans le feu comme avait fait leur compagne. Il m'ennuyait bien de ce que je ne savais ce que cela voulait dire, mais j'appris un continent que c'était 5 esclaves qui, voyant que leur maîtresse était extrêmement affligée de la maladie de son mari et qu'elle lui avait promis de ne lui point survivre et de se brûler avec lui, se laissèrent aussi toucher de compassion et de tendresse envers cette maîtresse et s'engagèrent de parole de la suivre dans sa résolution et de se brûler avec elle.
Il a fallu attendre 1829 pour que le colonisateur britannique fasse adopter une loi interdisant la pratique du sati, pratique imposée aux veuves de disparaître après la mort de leur époux. Et cependant, ça a duré davantage.
C'est une pratique qui a vraiment été assez importante au Bengale, semble-t-il. Et quand les Britanniques l'interdisent, soutenus par les réformateurs bengalis d'ailleurs, les revivalistes, les traditionalistes vivent ça comme une atteinte extrêmement grave aux coutumes indiennes. Et c'est le début d'ailleurs d'une querelle qui ne cessera pas jusque l'indépendance entre Britanniques, revivalistes et réformateurs, qui chacun défend d'une certaine vision des femmes.
Ça a duré jusqu'à quand en fait, pratiquement ?
Eh bien écoutez, non, ça s'est arrêté à peu près en 1829. Il y a eu quelques cas encore ensuite au 19e siècle, mais assez clairsemé. Il y a eu une résurgence, si je puis dire, de ce supplice épouvantable au moment où le BJP, le Parti Nationaliste Hindou, a pris beaucoup d'importance récemment, dans les années 80-90. Une jeune femme, Roop Kamdar, s'est donné la mort, a brûlé vive sur le bûcher funéraire de son mari. Cet événement qui a été filmé, qui a été médiatisé extrêmement abondamment, a évidemment fait hurler les féministes qui ont pensé, qui ont essayé de comprendre la chose et ont pensé que c'était vraiment que cette jeune femme qui avait suivi des études, qui n'était pas du tout une paysanne illettrée, avait été... sans doute pressurée par sa famille, peut-être droguée, enfin que c'était une affaire montée. Alors que les nationalistes hindous, bien évidemment, en ont tiré une immense satisfaction explicite en disant « Voilà, les mœurs hindoues qu'on perdure, la femme hindoue est fidèle à son mari, voyez. »
C'est une des permanences, des forces de la permanence pour maintenir la femme en Inde dans une situation dominée.
Et beaucoup de femmes semblent en convenir. Enfin, je veux dire, les femmes qui essaient de s'émanciper ne sont pas aussi nombreuses qu'elles pourraient l'être ou qu'elles devraient l'être, malheureusement.
Attachons-nous maintenant à en faire l'histoire, si vous voulez bien, en commençant par cette première génération qui ont eu, en transgressant tous les interdits, le premier souci de cultiver les femmes, de les éduquer, de les sortir de leur analphabétisme. Il y a quelques hautes figures que vous évoquez et qui méritent vraiment la considération.
Ramabai Ranade, qui est une des premières femmes, pas une des premières femmes, il y en a eu beaucoup d'autres, mais enfin elle est très intéressante parce qu'elle a laissé un témoignage, souvenir de notre vie ensemble, un témoignage très intéressant parce qu'elle démarre son écrit en présentant son projet, c'est-à-dire qu'elle allait parler de son mari, elle écrit ce livre alors qu'il est mort. Et en fait, au cours de son récit, elle surgit, elle est là, elle est présente, cette épouse qu'elle était. Et finalement, elle écrit un livre dans lequel on se rend compte que la conjugalité, une forme de conjugalité tout à fait inédite, prend place.
Est possible et peut devenir exemplaire.
Exactement. Et que cela est dû, j'imagine, en grande partie à cause de l'éducation que cette Ramabai Ranade a reçue de son mari.
Qui était un réformateur.
Qui était un réformateur et qui avait 25 ans de plus qu'elle.
Une autre figure que vous évoquez, c'est celle d'Anandibai Joshi, je ne sais pas si je prononce bien.
Très bien.
Qui était médecin, doctoresse, comme on disait à l'époque, voyageuse. Et alors on voit déjà ce va-et-vient avec les États-Unis d'Amérique, qui est encore si important aujourd'hui. Beaucoup de féministes indiennes ont évidemment les yeux tournés vers l'Amérique.
Oui, c'est vrai. Et la diaspora indienne aux États-Unis est extrêmement importante et brillante d'ailleurs.
Donc c'est actuel, elle est actuelle cette personnalité.
Oui. Alors Anandibai Joshi est aussi un personnage très, très intéressant parce qu'elle est mariée très jeune, elle est mariée à 9 ans je crois. Et à 12 ans, elle accouche d'un enfant qui sera mort-né. Et on dit que cet accouchement l'aura tellement frappée qu'elle décide à la suite d'étudier la médecine. Alors elle a un mari réformateur qui est très cruel apparemment parce que quand elle est aux États-Unis, elle lui écrit des lettres dans lesquelles elle dénonce sa violence. Il est très cruel, mais en même temps, il souhaite beaucoup que son épouse fasse des études. Donc, il la pousse à faire des études.
Contradictoire un peu. Parce qu'elle écrit en effet des choses impressionnantes. Me frapper avec des morceaux de bois à l'âge tendre de 10 ans, me lancer des chaises et des livres, menacer de me quitter quand j'en avais 12, parce qu'on se marie extrêmement jeune, évidemment, m'infliger d'autres étranges punitions quand j'en avais 14. Tout cela était trop sévère, c'est le moins qu'on puisse dire, à nos yeux en tout cas. Tout cela était trop sévère pour l'âge, le corps et l'esprit de ces âges respectifs. J'étais né pour supporter tout cela. Ramabai Ranade aimait son époux parce qu'à ses yeux, il était un saint, alors qu'Anandibai Joshi l'aimait en dépit du fait qu'il était si cruel.
Exactement, et c'est très intéressant parce que c'est justement ce devoir d'amour dont nous avons parlé au début de notre entretien. Les femmes ont un devoir d'amour et Anandibai Joshi, malgré toutes les critiques qu'elle adresse à son mari, je crois dans cette lettre, lui dit « mais je suis très satisfaite de ce que je suis » et elle le rassure sur l'amour qu'elle lui porte.
On voit surgir dans la génération suivante des écrivains, des écrivaines, dirait-on aujourd'hui, qui écrivent pour les femmes et au nom des femmes. J'étais intéressé par Tarabai Shinde, par Pandita Sarasvati. Pandita, c'est le féminin de Pandite, l'homme très sage. On disait le Pandi Nehru, à propos oui. du grand premier ministre de l'Inde décolonisé.
Ça désigne plutôt un lettré, en fait, Pandit. Et Pandita Sarasvati est une figure qui a été ressuscitée dernièrement par les féministes indiennes, alors qu'on l'avait soigneusement oubliée, puisqu'elle s'était convertie au christianisme, ce qui était vraiment la dernière chose à faire quand on était indienne. Et Pandita Sarasvati a reçu ce titre, en fait, de la part de Brahman, de lettré, justement, de Calcutta, qui l'ont interrogée sur ses connaissances. Elle avait été éduquée par son père et sa mère et qui ont été tellement éblouis par sa connaissance du sanskrit, des textes sacrés, qu'ils l'ont surnommée Pandita, c'est-à-dire le féminin de Pandite, auquel ils ont accolé le nom de la déesse du savoir, Sarasvati. Donc Pandita Sarasvati, c'est la femme lettrée, c'est la déesse Sarasvati lettrée.
On comprend qu'elle soit une icône aujourd'hui pour les combattantes contemporaines du féminisme indien.
Du fait que l'éducation était barrée aux femmes, cette Pandita Sarasvati avait fait véritablement son cheval de bataille. C'était extrêmement lyrique pour décrire la montagne de savoir que les femmes devaient grimper.
Alors si on s'arrête un instant, Martine van Vurkens, dans cette période, disons la seconde moitié du 19e siècle, période très importante pour l'histoire du féminisme, au-delà des personnalités, comment peut-on caractériser ces courants féministes. Lorsque, par exemple, une Irlandaise aussi dynamique que la féministe Margaret Cousins vient en Inde pour essayer d'y faire du prosélytisme, comment peut-elle, si on se place un instant dans son esprit, comment verra-t-elle la manière dont s'activent les féministes en Inde ?
Elle sera une féministe indienne, en fait, cette Margaret Cousins, de la même manière que Annie Besant. Enfin, il y avait toutes ces Irlandaises socialistes, féministes, qui étaient passionnées par l'Inde et qui avaient décidé d'y vivre et qui admiraient profondément l'Inde. Margaret Cousins, c'était une féministe plus convaincue, je pense, que Annie Besant. Et c'est elle qui va avoir l'idée, entre autres, d'organiser une grande conférence pour les femmes.
Ça, c'est important dans l'évolution des esprits en Inde.
Très important. C'est la première conférence, la grande All India Women's Conference. D'ailleurs, c'est la plus grande association de femmes encore aujourd'hui. Et en 1927, donc, il y a cette immense réunion des femmes de toute religion, de toute caste, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment la crème des femmes qui est là.
La crème, ça veut dire la bourgeoisie ?
La bourgeoisie, l'aristocratie, etc. Les bégums, enfin, musulmanes, etc. Et l'idée, c'est de mettre en place un programme éducatif pour les femmes et bien évidemment, les sortir de leurs suggestions grâce à ce programme éducatif.
Le ressort de l'enseignement est fondamental dans ce combat pendant des décennies.
Fondamentale, parce que les femmes, comme on l'a dit, ont été privées d'accès à la lecture et à l'écriture. Ce privilège chèrement acquis au cours du 19e, eh bien, elles ne veulent plus l'abandonner, le lâcher. Et elles sont convaincues, en tous les cas, Kamala Devi Chattopadhyaya, entre autres, qui est une des figures les plus étonnantes, si vous voulez, de cette période d'avant l'indépendance et d'après l'indépendance.
Qui a vécu de 1903 à 1988, si je suis bien informée. C'est une combattante inlassable, elle, pour la liberté. Elle était vraiment l'ambassadrice des luttes indiennes.
L'une de celles qui va faire en sorte qu'en 1929, je crois, le Sarda Act va être voté, c'est-à-dire que l'âge de mariage des filles va être repoussé à 14 ans et celui des garçons à 18 ans.
Jusque-là, c'était 10 ans ou 11 ans ?
12 ans 12 et ans, 14 ans, oui. Ouais, 1891. Ouais. Mais c'était une grande victoire.
Tout ça se cristallise, se coagule dans des institutions formelles, des associations installée ou bien c'est un ensemble qui reste assez flou, la coordination des efforts des diverses féministes dans ces générations de la première moitié, de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e?
Écoutez, là, c'est vraiment, c'est toujours le All India Women Conference qui va jouer le rôle vraiment, je crois, moteur, essentiel, et qui sera d'ailleurs l'interlocuteur de Indira Gandhi quand il s'agira de lancer cette immense enquête sur les femmes indiennes dans les années 70.
Elle existe encore ?
Cette organisation existe encore, elle rassemble, semble-t-il, le plus grand nombre d'adhérentes. Les reproches qui lui sont faits sont complètement liés, si vous voulez, à son acte de naissance. C'est une association qui est faite par les grandes dames, les bourgeoises, les aristocrates. Il semble qu'aujourd'hui encore, cette association soit très très moyennement ouverte aux femmes tribales, aux femmes de basse caste.
À partir du moment où on approche du XXe siècle, on rencontre forcément Martine von Wurkens, on rencontre les combats du nationalisme avec la grande personnalité de Gandhi. Et la question se pose, elle peut se poser encore d'ailleurs aujourd'hui, quant au patriotisme indien. La question se pose, la manière dont vont s'entrelacer, parfois se contredire, l'aspiration sociale de l'émergence de femmes mieux traitées et d'autre part l'aspiration à l'indépendance.
Mahatma Gandhi, si l'on en croit en tous les cas une féministe comme Kamala Devi Chattopadhyay, elle associait très très étroitement l'émancipation des femmes à l'indépendance de l'Inde. Et qu'elle a trouvé en Gandhi un aspirateur. Parce que Gandhi, étant donné les symboles par exemple qu'il avait choisis, qui étaient des symboles de la vie quotidienne, le sel ou le khadi, le filet, le coton.
Le rouet.
Gandhi avait prélevé finalement des objets, des symboles domestiques, en avait fait des symboles valables pour l'Inde entière, et que les femmes avaient particulièrement ressenti comme proches d'elles. De la même manière, Gandhi, dans la stratégie qu'il a développée de la résistance passive, demandait finalement à l'ensemble des Indiens, et particulièrement aux femmes, c'est-à-dire aux gens faibles, d'être capables d'être aussi forts que les gens forts. C'est-à-dire qu'ils mettaient à la portée de tout le monde la capacité de lutter. Bien évidemment, pour les femmes, ça a été la porte ouverte pour elles, pour s'engager dans les combats pour l'indépendance.
Aujourd'hui encore, on peut lire que beaucoup de femmes adoptent, à l'égard de ceux qui les oppriment, quelque chose comme une résistance passive, leur manière d'être. Je voyais cette résistance passive, par exemple, des femmes sikhes qui ont vu leur mari assassiné à la suite du meurtre d'Indira Gandhi en 1984 et qui ont choisi de ne plus se laver, de ne plus s'habiller, d'être là comme une sorte de symbole très fort de l'inacceptable tel que posé, tel qu'affirmé par la faiblesse qui était la leur.
C'est un exemple magnifique, effectivement, qui est dans le droit fil de ce que Gandhi appelait à propos de sa femme, dont il disait qu'elle avait été son institutrice, l'entêtement de Kasturbai. Et effectivement, après les pogroms qui ont eu lieu suite à l'assassinat d'Indira Gandhi, dont l'assassin était un sikh, les pogroms contre les sikhs, il y a eu ces femmes sikhs qui ont décidé effectivement de rester dehors, de rester sales, de ne pas s'habiller, de rester dans toute la sauvagerie, si vous voulez, de la vie ordinaire, pour protester contre le fait que les autorités n'agissaient pas, que les enquêtes n'étaient pas faites, etc. Elles sont restées, je crois, plusieurs mois comme ça. Et les autorités étaient horrifiées, passaient devant elles, enfin, étaient horrifiées de les voir dans cet état. Et elles, c'était leur moyen non seulement de protester, mais d'exiger une action.
Pour certaines féministes d'aujourd'hui, en revanche, me semble-t-il, en Inde, cela est un peu trop passif.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs combats aujourd'hui. Les femmes éduquées, les femmes qui ont des pouvoirs, du pouvoir médiatique. Une intouchable est devenue ministre. Donc le pouvoir politique, le pouvoir intellectuel, ce sont différentes formes de pouvoir que les femmes utilisent aujourd'hui pour faire passer leurs revendications.
Oui, quand on voit la personnalité, par exemple, de la ministre des Femmes et de la Protection de l'Enfance, Rakhi Birla, on l'installe volontiers du côté d'un certain dynamisme, puisque c'est elle qui prône le recrutement d'anciens militaires et de professionnels des arts martiaux pour entraîner des femmes volontaires à faire des rondes pour éviter la réitération de l'affreux drame de la fin de 2012 que j'évoquais en commençant. Mm-hmm. Le viol dans un autobus et l'assassinat de cette malheureuse.
J'espère que ce ne sont pas des effets d'annonce. Enfin, c'est un peu ça que l'on craint en Inde. C'est-à-dire que beaucoup de mesures sont prises de ce genre. Auront-elles une pérennité ? C'est la grande question.
Peut-être d'ailleurs les chiffres que je donnais, aussi impressionnants soient-ils, doivent être apportée à ceux de l'Occident.
Oui, je pense que ce serait sage, effectivement, parce que, si j'ai bien compris, vous évoquiez le fait que sur une chaîne de télévision, on annonçait un viol toutes les 20 minutes en Inde. Je suis allée consulter les statistiques de l'INSEE, et l'INSEE affirme qu'en France, il y a un viol toutes les 9 minutes. Et
en Inde, vous croyez que les femmes aujourd'hui, quand elles sont violées, et elles sont très nombreuses à l'être, nous le disions, viennent maintenant plus aisément le déclarer, par exemple, à la police ?
Peut-être plus aisément après ce viol de décembre 2012, effectivement, parce qu'il y a vraiment un tabou qui est tombé lors de cette affaire. Quand la protestation contre ce viol s'est instaurée, la jeune femme violée, elle avait 23 ans, on a vu apparaître une série de mots extrêmement laudateurs pour la qualifier. Elle était la scintillante, la brillante, l'éclair, celle qui n'avait pas peur, etc. C'était une héroïsation d'une femme violée. Et ça ne s'était jamais vu.
Enfin, c'est un signe d'évolution des esprits, en tout cas dans les villes.
Bien sûr, une femme violée, c'était un cadavre vivant. Enfin, c'était quelqu'un qui était ostracisé par la société, etc. Et donc, tout à coup, c'était devenu une héroïne.
Alors, pour entrer de façon plus concrète, plus directe dans cet univers des femmes et dans l'analyse de leur combat, on peut voir d'abord ce qu'est cette pratique de la dot qui est très impressionnante. C'est-à-dire, vous allez nous l'expliquer, Martine van Werkens, quels effets la dot peut avoir sur le comportement des hommes et des femmes, et en particulier avec la conséquence de meurtre. Il va falloir expliquer ça, ou de tentative de meurtre de la femme lorsque sa famille est incapable d'apporter tout l'argent qu'on attendait de la jeune mariée. Écoutez ce témoignage, ce reportage d'Aurélie Champagne dans la chambre de Grand Brûlé d'un hôpital gouvernemental de Bénarès. C'est un extrait du Vif du sujet, l'émission d'Alexandre Hérault sur France Culture le 18 mars 2003.
Quand est-ce que ça s'est produit ? Le mari répond la nuit dernière. Et comment ? Elle cuisinait et un enfant est passé en courant, en versant un flacon de kérosène. Ce kérosène a imbibé son sari. J'ai soif, très soif. Dis-leur comment tu te sens. Ça va ? Ça va. Je demande au mari ce qui s'est passé. Et il me remercie, manière de me congédier poliment. Peu convaincu des premières explications du mari, nous retournons l'interroger. Curieusement, alors qu'il parlait très bien anglais, il choisit de nous répondre en hindi. Gaz, un accident au gaz. Il y a combien de jours ? 15, 16 jours. Elle a 25 ans. C'est votre sœur, là ? Ma belle-sœur. Et là, ma belle-mère. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Pour savoir, je pose la question à tous les patients. Il s'agit d'un accident au gaz. Une fuite de gaz. Et elle était seule ? Vos enfants n'ont pas été touchés ?
Non.
Donnez-lui des médicaments et elle se remettra vite, nous dit la mère.
Il a manifestement peur. De toute manière, quand il a demandé « Mais pourquoi vous m'interviewez ? Pourquoi vous posez des questions ?» C'est-à-dire qu'il a peur qu'on le dénonce. Mais à partir du moment où il y a le mari qui est là, la mère, la grand-mère et sa sœur, donc elle n'est plus dans sa belle-famille. Donc la belle-famille a complètement disparu. Donc sans porter un jugement, on peut soupçonner qu'il ne s'agit pas d'un accident de cuisine, mais bel et bien d'une tentative d'assassinat, vu qu'elle vit encore. Mais je pense qu'elle va s'en sortir. Mais après, comment va-t-elle vivre ? Je ne sais pas.
Martine van Werkens, c'est là un épisode qui demeure, qui est demeuré longtemps très, très fréquent. De fait, un assassinat qu'on voit apparaître, c'est comme ça qu'il faut interpréter.
Absolument, c'est un assassinat qu'on voit apparaître, qui apparemment perdure malgré des lois qui, bien évidemment, vont contre ce phénomène qui s'appelle la dot en Inde. Alors la dot en Inde, c'est une somme d'argent finalement que la famille de la mariée débourse au moment où elle épouse son partenaire.
À l'origine, c'était assez logique, ça voulait dire que comme c'était le garçon qui allait être l'héritier, c'est une façon de partager à l'avance l'héritage en donnant une partie à la fille.
Oui, c'est une des raisons, en tous les cas, c'est une des justifications que l'on donne à cette dot.
Et puis ça s'est dégradé.
Ça s'est dégradé, parce qu'en fait, cette dot est très souvent accaparée par la belle-famille. Et donc, la fille qui était censée être protégée par cet argent, par ce bien qui lui appartenait en propre, en fait, en est dépossédée immédiatement.
Là, on la brûle parce qu'elle n'est pas capable de continuer d'apporter de l'argent.
On demande des compléments de dot, la famille souvent cède, d'ailleurs, au début, puis finalement ne peut plus, et par conséquent, on supprime la jeune femme, l'assassin, le mari, la belle-mère, très souvent son complice d'ailleurs, va ensuite épouser une autre femme et toucher une autre dot. Le calcul est très simple. Ce problème de la dot, qui est très présent, qui a envahi l'Inde entière, enfin c'est une épidémie, paraît-il, et c'est vrai que dans la société consumériste dans laquelle on est, ce problème de la dot est de plus en plus criant et terrifiant, parce qu'il donne lieu justement à ce genre de crime. Ce problème de la dot, il a été soulevé en fait par la deuxième vague du féminisme, celui qui apparaît sous Indira Gandhi dans les années 80.
Alors comment est-ce que ça se passe d'ailleurs concrètement, cette organisation des féministes? Comment est-ce qu'elle se manifeste d'âge en âge?
Cette deuxième vague de féminisme, en fait, elle s'est organisée à partir de petits groupes autonomes, tout à fait indépendants des partis politiques, des grandes formations politiques. Ce sont des femmes très souvent universitaires, journalistes, avocates, qui se sont intéressées aux disparitions de jeunes femmes inexpliquées, qui ont enquêté. Bien évidemment, le silence était total, de la part bien sûr de la famille criminelle, mais aussi de la part de la famille de la fille, parce que la famille de la fille, il était à l'époque, je pense que ça a un peu changé, il était à l'époque, et c'était perçu comme une honte totale, si vous voulez, de récupérer une fille qu'on avait mariée. Une fille qu'on avait mariée, on ne devait plus jamais la voir, enfin, elle était la propriété de la belle famille. Et donc, ces femmes se sont interrogées sur ces disparitions mystérieuses, elles ont enquêté, et elles ont fini par comprendre ce qui se passait. Et alors il y a eu des manifestations dans toutes les grandes villes de l'Inde. Ça a commencé à Delhi, et puis ça s'est développé à Bombay et d'autres grandes villes. Et il y a eu un grand mouvement, si vous voulez, contre la dot. Tout à coup, la vie privée, qui jusqu'alors était restée au secret, tout à coup, la vie privée a été étalée dans tous les journaux, s'est retrouvée être l'objet de conversations. Et ça a été le début vraiment de cette deuxième vague du féminisme qui s'était emparée du slogan qui était celui des féministes occidentales, à savoir que la sphère privée, la sphère domestique relève du politique.
En pratique, donc, ces femmes qui utilisaient les médias, avaient constitué entre elles des organisations, des associations,
oui,
sortir d'une solitude de quelques personnalités que vous évoquiez, qui sont devenues en effet des personnages représentatifs, mais qui étaient assez isolés. Comment est-ce que ce féminisme indien, à partir de l'époque de l'indépendance, s'est organisé, s'est constitué?
Mais il s'est constitué, il a pris du temps, parce que peu après l'indépendance, il y a eu des lois qui ont été faites, le Hindu Code Bill, qui concernait les lois personnelles des hindous, et qui étaient vraiment des lois extrêmement progressistes, on peut dire. C'est-à-dire que les femmes avaient le droit de divorcer, l'héritage était à part égale pour les garçons et pour les filles.
Elles ont voté d'ailleurs, celles qui étaient mariées, propriétaires, ont voté dès après la Première Guerre mondiale, donc avant les Françaises.
Avant les Françaises. Et puis, il y a eu ce Hindu Code Bill qui était vraiment très favorable aux femmes. Bien évidemment, il n'a pas été suivi des faits. La loi était là, mais l'application de la loi ne s'est pas faite tout de suite.
Le système judiciaire restant porteur d'un esprit très, très traditionnel.
Très traditionnel. Et donc, les féministes, si vous voulez, de l'époque, après ce Hindu Code Bill, se sont endormies. Se sont un peu endormies, elles étaient très contentes finalement, elles étaient satisfaites, avec un seul regret, c'est qu'il n'y ait pas un code civil uniforme pour l'ensemble des Indiennes. C'est un code civil qui concernait donc les hindous.
Pas les musulmans en particulier, ni les chrétiennes.
Pas les musulmanes, ni les chrétiennes. Mais enfin, ce regret, bon, ne les a pas empêchés de s'endormir, d'être très contentes d'elles-mêmes. Et donc, vraiment, le féminisme s'est endormi. Et il a fallu attendre, si vous voulez, un rapport commandité par l'ONU, Towards Equality, qui est paru, je crois, en 1975, qui a fait un coup de tonnerre dans les consciences féminines de l'époque, parce que ce rapport décrivait l'extrême vulnérabilité des femmes, l'extrême détérioration de leur statut.
Ça a suscité de nouvelles énergies parmi les combattantes du féminisme. On est là au milieu du règne, si je puis dire, d'Indira Gandhi, la fille de Nehru, qui a été Premier ministre de 1967 à 1984. Une femme, après tout, une femme, mais qui n'était pas très féministe.
Non, pas très féministe, pas très éprise des femmes, si j'ose dire. Elle était plus passionnée, je pense, par la politique internationale et la politique intérieure que par le problème des femmes. Et puis, c'était une femme de pouvoir. C'était, on l'a surnommée la dame, une Madame Thatcher à l'indienne. C'était une femme de pouvoir. Donc, toutes ces histoires personnelles ne l'intéressaient pas. Après les campagnes donc, contre la dot, a explosé le procès de Mathura dans les années 80. C'était une jeune fille tribale que les parents avaient amené à un poste de police dans l'espoir de la dissuader de suivre son jeune amant. Elle avait 16 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et Mathura a été violée par les policiers. Ce qui a provoqué, de la part de cette famille et du village, une protestation immense. Une protestation immense qui a peu à peu gagné l'opinion et un procès a eu lieu.
On a l'impression dans cette histoire qu'il y a souvent un fait divers qui, plus que d'autres, et pour des raisons difficiles parfois à discerner, devient emblématique, comme ça s'est passé avec le viol de cette jeune femme dans un autobus.
Toujours est-il que Mathura, donc, un procès a lieu et les policiers sont jugés non coupables. Mathura, après tout, avait une expérience sexuelle, puisqu'elle avait un petit ami, précisément. Et puis, elle ne s'était pas débattue.
Donc, elle avait provoqué le violeur.
Voilà.
Il y a un autre thème qui est également porté par le féminisme, et c'est l'indignation contre la pratique du féticide des petites filles. Parce que, pour des raisons en partie que vous avez dites, c'est-à-dire la question de la dot, les filles rapportent beaucoup moins que les garçons. Donc, on souhaite s'en débarrasser. Le développement des échographies est évidemment redoutable à cet égard, puisqu'on peut savoir quel est le sexe de l'enfant dans le ventre de la mère, beaucoup plus tôt, même si c'est très tard pour l'avortement. Et puis, parfois, on tue l'enfant, la petite fille, dès après sa naissance. Écoutez ce témoignage d'un professeur d'anglais au lycée français de Pondichéry sur l'infanticide. Il s'appelle Lourdes Louis. C'est un extrait de Grand Angle, de l'émission Grand Angle de Carole Pitter sur France Culture le 24 juillet 1993.
Quelle est la vie d'une toute petite fille en Inde, puisque quand elle arrive dans sa famille, c'est une charge. Quelle est sa vie? Comment elle est acceptée?
Actuellement, il y a un mouvement contre les petites filles, les bébés filles. Mais je crois que ça dépend du milieu social, du milieu familial.
Et qu'est-ce qu'on fait avec ces filles qu'on n'en veut pas?
Bon, vous avez des villages, oui, près de Pondichéry, qui ce qu'on appelle Kalakurchi, c'est sur la route de Vilippuram. Les paysannes, hein, c'est la classe paysanne surtout, parce que c'est des bouches à nourrir et la dot, c'est trop lourd. Donc, vous voyez ce qu'ils font? Quand l'enfant a 3 jours, le bébé a 3 jours, elles mettent soit un grain de paddy, vous voyez, le riz non décortiqué dans la bouche. Et l'enfant étouffe. L'enfant meurt d'une mort naturelle. Ou bien, elles prennent le jus d'une plante qu'on appelle Irtium. C'est une plante, vous voyez, qui est... Quand vous écrasez la feuille, ça vous donne une espèce de liquide blanchâtre. Ça fait rappeler ça rappelle le lait. Elles mélangent ça au lait et elles font boire ça à l'enfant. Donc, ce lait a la propriété de corroder, de brûler. L'enfant a l'ésophage, l'estomac tout brûlé. Et la diarrhée, et il meurt dans les jours qui suivent. Ça se fait même maintenant. D'ailleurs, vous pouvez, même ce matin, vous avez dû lire dans le journal, ça se passe. Surtout dans le district de Salem, de Madurai. Ici, la police essaie de lutter contre cela. Mais on ne peut pas prouver. Et on dit que l'enfant est mort, surtout si c'est un petit grain de riz. Comment trouver que l'enfant a été tué? On croit que l'enfant est mort d'une mort naturelle. Il a étouffé, on ne sait pas pourquoi.
Eh bien, Martine Van Vergens, voilà un témoignage impressionnant.
Oui, très impressionnant. Apparemment, il s'agit d'une paysanne, de quelqu'un en tous les cas qui n'a pas recours aux moyens, aux technologies sophistiquées, si vous voulez, qui permettent de supprimer les fœtus féminins, moyens sophistiqués qui sont très très répandus en Inde. On peut repenser au phénomène de la dot, qui s'est répandu donc comme une épidémie en Inde, parce que la suppression des bébés-filles, bien évidemment, est liée à la dot. On marie sa fille et donc il faut verser de l'argent. On dit, d'après les statistiques, que 60% des emprunts en Inde sont faits pour le mariage des filles. 60% des emprunts bancaires.
Pour la cérémonie et surtout pour la dot.
Pour la cérémonie.
Qui est très coûteuse et pour la dot.
Et beaucoup pour la dot. Et donc le témoignage que nous venons d'entendre, il se situe dans le sud de l'Inde, qui n'est pas la région la pire en matière de déséquilibre entre hommes et femmes. En fait, les régions les plus terribles, c'est le nord de l'Inde, c'est le territoire de Delhi, entre autres, d'ailleurs, la capitale de l'Inde, l'Haryana, par exemple, où on arrive, je crois, le sex ratio est de 871 femmes pour 1000 hommes.
Les ONG jouent un rôle important dans, dans cette histoire du féminisme indien.
Oui, beaucoup. Et par exemple, les féministes sont arrivées en 1994 à faire voter une loi contre l'avortement sélectif. Mais c'est en grande partie à cause d'une ONG, pas très importante en nombre, mais extrêmement dynamique, qui réunissait d'ailleurs des femmes, mais aussi des hommes. Vous savez qu'en Inde, on parle des hommes féministes. Ils sont quand même très, très présents eux aussi. Forum Against Rape, le forum contre le viol, qui vraiment s'est démené, a envahi les médias, a pétitionné auprès de l'État, etc., pour faire entendre, si vous voulez, ce problème, qui était bien évidemment là aussi caché à l'intérieur des familles. Le Maharashtra, puisque nous sommes au Maharashtra, a voté une première loi, a finalement entendu, si vous voulez, les revendications de ce forum contre Bombay, a voté une première loi.
Et dans un pays fédéral, il faut le rappeler, avec des grandes variétés suivant
selon
les
États.
Régions.
Oui. Première loi dans laquelle l'avorter était déclaré coupable. Alors, bien évidemment, les combats ont recommencé.
Il y a toujours ce sinistre retournement, en fait.
Exactement. Jusqu'à la loi de 94, où enfin il a été décidé que les médecins étaient déclarés coupables.
C'est très tard, l'avorter. 94, c'est très tard.
Très tard. Alors que la loi l'IVG en Inde, c'est 1971.
Je voudrais que nous terminions, Martine Van Vergens, en évoquant un autre type de protestation féminine très, très original, celui-là, c'est celui d'un personnage qui est une sorte de rebelle, une sorte de Robin des Bois, surmédiatisé en fait, et qui est Pulan Devi, dont on a beaucoup parlé en Inde, aux États-Unis, un peu partout, et qui peut apparaître avec le recul comme l'incarnation de l'idée que par les méthodes traditionnelles du féminisme, on n'arrive pas à suffisamment de résultats. Je voudrais que vous nous aidiez à ressusciter ce personnage tout à fait étonnant, mais auparavant, je vais vous faire entendre sa voix. Elle s'exprime ici sur France Culture le 26 mars 1987. Rassurez-vous, traduite par Radha Sharma, c'est dans les Mardis du cinéma de Marie-Christine Navarro. Pulan Devi.
जो हमारी हमारी जाति है हम फिशरमैन हैं जो मछली पकाते हैं नाव चलाते हैं पर ना तो
J'appartiens à une caste de pêcheurs et de bateliers. Et qui est-ce qui permettait à mon père de faire son travail, c'est-à-dire le travail de faire de la pêche? C'est plutôt un métier que les gens qui sont plus grands, qui sont plus riches font. Et donc, mon pauvre père, vraiment, puisqu'il n'avait pas assez de moyens, il était obligé de travailler dans les champs des autres. Et donc, toute la famille lui donnait un coup de main dans les champs.
Est-ce qu'elle se souvient des premiers moments où elle s'est révoltée contre cet état de fait? Est-ce qu'elle se souvient du moment où elle n'a plus accepté cette situation? Comment c'est venu progressivement chez elle?
J'avais peut-être 13 ou 14 ans maximum quand je me suis révoltée. Et quand j'ai quitté la maison, j'avais 15 ans, pas plus.
Alors, Pulan Devi, vous n'êtes pas allée à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. Ensuite, vous avez quitté votre village. Comment s'est passée votre vie à ce moment-là?
तो आप स्कूल तो नहीं गई थी
नहीं हम लोगों को कहां पढ़ने का चांस मिलता है गरीबों को तो स्कूल भी नहीं देखने
Bien sûr, je ne suis jamais allée à l'école. L'école, c'était quelque chose d'exclu. Pour moi, c'est quelque chose auquel uniquement les riches ont droit. Et moi, donc, j'ai passé mes jours en pénurie complète, en misère. Donc, il arrive bien un moment où on est obligé de se révolter parce que on ne peut pas continuer à accepter tout cela, à supporter tout cela, ces coups donnés par les riches, ces riches qui vous piétinent. Je ne suis pas du tout partie de mon propre gré. C'est son cousin qui m'a obligé de partir parce qu'il était en contact avec des bandits et il a demandé aux bandits de m'enlever. Et donc ça s'est passé plutôt comme ça et j'étais enlevée par des bandits et j'ai passé un moment avec les bandits et par la suite la société n'était pas du tout prête à m'accepter. Même ma caste de pêcheurs n'était pas prête à m'accueillir de nouveau. Et ils pensaient que c'était de ma faute, parce que vous savez, c'est toujours la faute de la femme. Et on m'avait volé mon honneur, donc qu'est-ce que je pouvais faire? Je n'avais pas le choix, donc j'étais obligée de rester avec ces gens. Et je suis devenue bandit, et j'ai commencé à voler, comme les gens avaient fait avec moi, j'ai commencé à faire avec d'autres gens.
On trouve là, dans cette histoire individuelle, Martine Van Vurkens, on trouve là plusieurs des problématiques que nous avons rencontrées en réfléchissant ce matin à l'histoire des féministes en Inde, jadis, naguère, et aujourd'hui. Il y a l'idée de l'analphabétisme, cette icône est analphabète, l'opposition entre la force et la persuasion, et puis les riches et les pauvres. Constamment, cet antagonisme est présent, non ?
On est vraiment là, si vous voulez, au bas de l'échelle sociale, vraiment dans ce système des castes. Phulan Devi, non seulement est une femme, mais elle est aussi une basse caste. Parce qu'on peut être de basse caste et riche, mais elle est pauvre par-dessus le marché. Et par ailleurs, c'est une révoltée, apparemment, assez rapidement. Elle a une sorte de sens très fort de sa dignité, de ses droits, puisque son père, apparemment, a été spolié de ses biens par son frère. Enfin bon, il y a une querelle de famille. Donc Phulan va se rebeller. Enfin, c'est une rébellion qui va s'arrêter assez rapidement quand son père va la marier à l'âge de 12 ans avec un épouvantable mari. Elle sortira de ses griffes, sa famille va la récupérer. Et puis la querelle de famille va s'envenimer à tel point que le cousin, le fils du frère du père de Phulan, donc, va livrer cette jeune femme, elle a 15 ans, à des bandits qui ont mission de l'assassiner.
Après l'avoir violée, bien sûr.
Après l'avoir violée. Elle va s'en sortir, bon, à cause d'une histoire d'amour qui va s'épanouir entre elle et un magnifique bandit qui s'appelle Vikram. Et
on comprend qu'on en ait fait un film après, oui.
On comprend.
Donc elle trouve un magnifique bandit et elle devient bandite.
Elle devient bandite, elle devient chef de. Et à la mort de ce Vikram, elle va prendre donc la direction d'une troupe de bandits.
Elle se venge d'ailleurs.
Et elle se venge parce qu'elle a été violée par des Thakurs, des propriétaires terriens. Et elle les assassine, enfin. Vous savez, c'est un crime qui n'a jamais été prouvé. Mais enfin, voilà. Il pèse sur elle. Et c'est la raison pour laquelle on va l'arrêter. Alors, elle passe 5 ans dans cette vallée de la Chambal, qui est une vallée absolument incroyablement faite de coins et de recoins. C'est l'Afghanistan, si vous voulez, tel qu'on l'a vu avec Al-Qaïda.
Elle a pris le maquis.
Elle a pris le maquis. Et Indira Gandhi est extrêmement fâchée, énervée de voir que la police est incapable d'attraper cette bandite. Donc on envoie des émissaires, enfin.
De plus en plus célèbre, avec un mélange d'inquiétude et d'admiration, comme toujours.
Absolument. Elle va donc accepter de se rendre, mais en négociant de manière très très sérieuse les termes de sa reddition. En 83.
Elle fait un peu de prison et après elle est tellement connue.
Un peu de prison, 11 ans de prison.
Elle va être élue au Parlement, c'est une histoire étonnante.
Une histoire extraordinaire. Alors effectivement.
Mais c'est toujours pas lire et écrire quand elle est parlementaire.
Non, elle est analphabète, on lui en voudra beaucoup d'ailleurs, on lui en voudra beaucoup d'être petite, d'avoir la peau foncée.
On l'aurait voulu ravissante, c'est ça ?
Exactement, de parler un baragouin. En fait, un baragouin, c'est un dialecte. Ce n'est pas le hindi, si vous voulez, des classes supérieures. C'est le dialecte qu'on parle dans son village, dans sa région. On lui en voudra beaucoup, effectivement, de faire une carrière politique, si vous voulez, avec toutes ses faiblesses, enfin, toutes ses tares.
Les féministes installées l'apprécient ou au contraire trouvent qu'elle compromet le combat ?
Non, elles vont beaucoup la soutenir, en fait. Elles vont beaucoup la soutenir. Et puis, il y aura ce film de Kapoor de 1994, The Bandit Queen, qui va faire grand bruit en Occident. L'Occident va découvrir ce que c'est que les basses castes, le sort des femmes de basses castes.
La reine des bandits.
La reine des bandits. Et ce que leur rébellion peut apporter. Et puis l'Inde aussi va découvrir, si vous voulez, cette rébellion et cette existence des femmes de basses castes.
Même si le film est finalement interdit en Inde.
Il est interdit, il va subir un certain nombre de coupures, enfin le système de censure va agir, et puis on va le sortir sur les écrans, et il aura un immense succès. Grande dame des féministes, qui n'aiment pas ce film, oui, parce qu'il y est question des viols de Fulan, et le succès occidental de ce film les rend méfiantes. Vous savez, il y a toujours cette rivalité entre féministes occidentales et féministes des pays du tiers-monde, ex du tiers-monde. Et donc, elles accusent le metteur en scène de faire un film, en fait, pour plaire aux Occidentaux. C'est-à-dire, on montre une pauvre femme indienne, une fois encore, une pauvre femme victime indienne, et on la montre nue, en train de se faire violer.
Mais cette femme indienne pauvre finit mal, tragiquement.
Elle finit tragiquement, elle est assassinée, effectivement, en 2001.
On sait pourquoi, par qui ?
Pas du tout. Aucun procès, aucune recherche, rien. Elle disparaît de notre monde comme elle est apparue d'une certaine manière, comme quelqu'un qui n'a aucun intérêt.
Et elle a contribué finalement, vous le pensez, avec le recul, à l'efficacité du féminisme en Inde, avec le recul de 13 ans ?
Je pense que oui, parce qu'elle elle fait partie d'un mouvement beaucoup plus vaste, enfin c'est une icône effectivement, mais qui représente un mouvement beaucoup plus vaste, dans lequel les basses castes, les intouchables, se mobilisent politiquement, utilisent, si vous voulez, l'argument de leur caste, la force de leur caste, pour acquérir un pouvoir politique et défendre leurs intérêts. Et Fulan Devi, par exemple, a fait, paraît-il, dans sa circonscription, un excellent travail auprès de ses élus pour régler des problèmes d'eau, pour défendre aux grandes dames des ONG féministes et occidentales, défendre le travail des enfants. Parce qu'évidemment, on veut toujours travailler, supprimer le travail des enfants. Et elle s'insurgeait contre cela en disant non, non, il faut changer les conditions des travail des enfants. Mais les enfants, souvent, nourrissent des familles entières et il n'est pas question de supprimer le travail des enfants.
Alors, en définitive, si vous jetez un regard sur le féminisme d'aujourd'hui, vous considérez que dans la longue durée de 2 siècles, les progrès sont notables ou qu'on a fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière ?
Je pense que les progrès sont admirables, que les lois sont de plus en plus précises et de plus en plus... Et si elles sont appliquées, elles seront de plus en plus efficaces, bien sûr. Je pense que l'Inde est dans un moment de transformation crucial. C'est-à-dire que vraiment cette modernité, qui est loin d'habiter tout le monde, si je puis dire, elle touche tout le monde.
Les nouvelles technologies vont servir au progrès du féminisme ? Ou sont en train de les servir ? La connaissance de ce qui se passe ailleurs ?
Certainement, certainement, parce que les féminismes, maintenant, c'est un mouvement transnational, c'est-à-dire qu'on ne s'ignore pas les unes et les autres.
Merci beaucoup, merci Martine von Vergens. Votre livre s'appelle « Nous ne sommes pas les fleurs », nous ne sommes pas les fleurs, c'est une citation, « 2 siècles de combat féministe en Inde », publication chez Albin Michel. Vous avez tenu à ce que je rende hommage à 2 autres ouvrages qui vous ont beaucoup inspiré. Celui de Catherine Wenberger-Thomas, « Cendre d'immortalité », et le sous-titre qu'on pouvait attendre, c'est « La crémation des veuves en Inde ». C'est un livre qui est paru au Seuil en 1996. Et puis sur un autre des sujets, l'infanticide ou le féticide, Bénédicte Magnier, « Quand les femmes auront disparu », l'élimination des filles en Inde et en Asie. C'est une publication plus récente, à la découverte en 2006. Grand merci d'être venu à mon micro. Vous pourrez trouver, mes chers auditeurs, chères auditrices, une bibliographie complète sur notre site et les références des documents sonores, vous le savez, les documents que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission afin de la conserver et de la méditer dans les siècles des siècles. Je rappelle que l'émission que vous venez d'écouter a été proposée une première fois le 18 janvier 2014. La semaine prochaine, nous rediffuserons une émission intitulée « De Duguesclin à Iron Man, le glaive et le bouclier » avec Hervé Drévillon. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier. Clément Daté était à la prise de son et Véronique Jolivet nous a aidés pour les Archivina. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Aurélie Luneau.